Les podcasts du Collège de France, Histoire.
C'est ainsi qu'en 1602, dans une pièce qui est très peu connue, qui a été représentée par une troupe d'enfants, celle des Children of St. Paul, on trouvera mis sur la scène anglaise un personnage clé fondamentale de la littérature picaresque, c'est-à-dire Lazarillo de Tormes, puisque le premier des romans picaresques, dont on connaît trois éditions de 1555, est le Lazarillo de Tormes. Et la pièce dont je parle a pour titre Blurt, Master Constable, or the Spaniard's Night Walk. Là encore, une attribution extrêmement indécise, soit à Thomas Dacre, soit à Thomas Middleton. Le fait intéressant est cette représentation par les Children of St. Paul, puisqu'au tout début du XVIIe siècle, et vous avez des échos de cela dans Hamlet, il y a comme une compétition entre une forme déjà installée de représentation théâtrale, celle des théâtres ouverts, à la manière du globe, les public amphitheaters, et d'autre part, l'importance et le succès croissant de troupes qui sont celles composées par de jeunes enfants et qui jouent à l'intérieur de salles fermées à Londres. Et cette tension est une des données fondamentales pour opposer certains dramatiques à d'autres et pour opposer un public plus large, plus populaire, plus nombreux, qui est celui des théâtres ouverts, tel le Globe, avec ce public des salles de théâtre qui se sont installées par exemple dans d'anciens couvents, comme les Blackfriars à Londres. Alors dans cette pièce, ce qui est intéressant, c'est de voir apparaître un personnage qui a pour nom Lazarillo de Tormes, puisque qu'il a immédiatement une référence, de la même façon que le Cardenio de la pièce perdue de 1613, avec un héros de littérature espagnole, connu parce que en 1586 a été traduite pour la première fois le Lazarillo de Tormes, avec pour titre The Pleasant History of Lazarillo de Tormes, a Spaniard, un Espagnol, donc on veut insister au titre sur le fait qu'il y a là quelque chose qui renvoie à cette réalité espagnole où sont contenues ces aventures et vies étonnantes, Marvelous Deeds and Life, avec les curieuses aventures qui lui sont arrivées au service de plusieurs maîtres. Puisque vous souvenez, la structure du Lazarillo de Tormes, c'est une série de passages de Lazaro d'un maître à un autre. 1590, traduction du Lazarillo, et 1596, 10 ans plus tard, traduction de la continuation du Lazarillo de Tormes, avec le titre « La plus plaisante et délectable histoire de Lazarillo de Tormes, un Espagnol, et de ses merveilleuses fortunes et adversités. The most pleasant and delectable history of Lazarillo de Tormes, a Spaniard, and of his marvelous fortune and adversity, the second part. » Et bien sûr, c'est dans cette seconde partie que les dramaturges, ou le dramaturge de la pièce représentée en 1602 et publiée en 1602, a trouvé son espagnol, puisque le Lazarillo de cette seconde partie est un Lazarillo qui est devenu militaire, est devenu soldat, ce qui n'apparaissait pas dans la première partie ou dans le Lazarillo de 1555. Et le point intéressant, avec cette pièce qui n'a pas de qualité particulière, le Lazarillo, c'est-à-dire cet emprunt d'un personnage à un roman picaresque, dans ce cas sa continuation, est traité de la même façon que Don Armado dans Love's Labour Lost. C'est-à-dire que ce Lazarillo de Tormes de 1602, qui se prétend le serviteur du dieu Mars, et qui déclare « Je suis un homme de guerre et j'ai le combat comme profession, I am a man of war and profess fighting », en fait, est un couard dont la bravoure est toujours démentie par les actions. Et d'ailleurs, l'un des personnages de la pièce dit, en le reconnaissant, « Ah, c'est ce drôle d'Espagnol qui a fui 20 miles avant de se retourner ». Et le personnage de ce bravage, peureux, est en même temps un personnage qui est un amoureux ou un ridicule, dupe de multiples tours qui lui sont joués. Par exemple, la croyance qu'il a que le diable lui parle lorsqu'il entend la pavane espagnole, et ce Lazarillo est l'objet de moqueries perpétuelles et de tours mauvais qui lui sont joués. À un moment donné dans la pièce, il se retrouve sur un tas d'ordures, tombé dans une trappe, et se croit arrivé en enfer. À la fin de la comédie, il annonce son départ pour les Indes. J'irai à pied jusqu'aux Indes pour trouver plus d'or, c'est-à-dire les colonies espagnoles. Et un des autres personnages, très politique, lui répond en rapport avec l'actualité diplomatique et guerrière du temps, c'est-à-dire la présence ou les efforts de l'Espagne pour être utilisés, les Irlandais catholiques contre la monarchie anglaise. Il y a beaucoup de vos compatriotes en Irlande, signor, rejoignez-les. On voit qu'il y a là un Lazarillo qui n'a pas beaucoup de rapport avec le Lazarillo du roman picaresque, première ou seconde partie, mais qui va porter sur ce nom, qui peut sonner dans les oreilles des lecteurs et des spectateurs anglais du début du XVIIe siècle, tous les stéréotypes que l'on a rencontrés, c'est-à-dire ces stéréotypes qui sont devenus familiers de l'espagnol ridicule et extravagant et de l'espagnol matamor et couard, et en même temps cette dimension de la superstition qui est très présente dans ce Lazarillo de la pièce de 1602. Donc voilà le cadre d'ensemble. Maintenant revenons à Don Quichotte et en essayant de comprendre ce que l'on savait de Don Quichotte en 1612 en Angleterre, avant la traduction de Shelton et l'année suivante, avant les représentations de Cardenio. Et je crois que c'est un exercice dans lequel, évidemment, la critique littéraire et l'histoire culturelle se rencontrent, puisqu'il s'agit non pas de penser à partir de notre savoir ou de nos catégories, mais d'essayer de reconstruire un peu archéologiquement ce qui pouvait être la connaissance, la perception, les interprétations de lecteurs ou de spectateurs dans le moment même où nous les saisissons, rencontrant une œuvre. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que dès avant la traduction, la publication de la traduction du Don Quichotte, on rencontre de multiples allusions à l'histoire du chevalier errant et de son serviteur, et cela dans plusieurs œuvres de théâtre. Un mot sur la traduction, j'ai mentionné le libraire-éditeur Edward Blount. On peut aussi mentionner le nom du traducteur, Thomas Shelton, parce que c'est un cas intéressant. Il s'agit d'un catholique irlandais qui était le fils d'un marchand qui avait été emprisonné pour sa foi et qui était le frère d'un John Shelton qui lui avait participé à Dublin à un complot anti-anglais et avait été pour cela pendu. Et on voit comment Shelton a été lui-même exilé en Espagne, puis dans les Pays-Bas espagnols, et qu'il était l'ami d'un catholique anglais exilé aux Pays-Bas, c'est-à-dire la partie restée espagnole, non pas les Provinces-Unies protestantes, mais les Pays-Bas espagnols, ce Verstegan, qui a écrit comme un anti-Las Casas, le théâtre des cruautés des hérétiques de notre temps. C'est-à-dire en 1587, il publie un anti-destruction des Indes en montrant que les cruautés ne sont pas du côté des catholiques espagnols, mais qu'elles sont du côté des protestants luthériens ou calvinistes européens. On voit donc le milieu de la traduction et du traducteur est un milieu très particulier, un milieu irlandais et catholique, et que peut-être le choix, la décision de traduire le Quichotte a à voir, au moins pour Shelton, avec cette foi persécutée, même si, évidemment, la traduction, une fois publiée à Londres, ne paraît pas avoir été lue ou comprise comme étant un manifeste en faveur du catholicisme. Alors, avant même cette traduction, on rencontre une présence, des allusions, des références au Don Quichotte dans des œuvres de théâtre. La plus fameuse, et qui est une pièce absolument magnifique, d'intelligence ou de subtilité, est une pièce qui a pour titre « The Knight of the Burning Pestle », le chevalier à l'ardent pilon, parfois traduit le chevalier au pilon flamboyant, une pièce qui a été attribuée par ses éditions de 1635 à Beaumont and Fletcher, mais en même temps dont on peut penser qu'elle était vraiment écrite par le seul Beaumont. Autre exemple de ce que je voulais souligner, c'est-à-dire la pratique de la collaboration. De nombreuses pièces ont été écrites ou publiées sous les deux noms de Beaumont and Fletcher, et Fletcher sera celui qui va collaborer avec Shakespeare dans les années 1612-1613, non seulement pour Le Cardenio perdu, mais aussi pour deux autres pièces, Henri VIII et les deux nobles cousins, The Two Noble Kinsmen. Alors, la première édition de la pièce, sans nom d'auteur, apparaît en 1613, et on peut supposer qu'elle a été composée quelques années auparavant pour la troupe d'enfants qui jouait dans l'ancien couvent des Black Friars. La date est incertaine de la composition du chevalier à l'ardent pilon, puisqu'on peut soit proposer 1611, si l'on suit le texte de la dédicace de l'éditeur Walter Burr au directeur de la troupe des enfants qui jouaient au Blackfriars, qui étaient les Queen's Revels Children. Il fait allusion à la traduction de Shelton, puisqu'il dit que cette pièce, Le Chevalier à l'ardent pilon, peut être considérée comme un unfortunate child, un enfant infortuné, et qui peut-être sera pensée de la race de Don Quichotte. Et il ajoute, nous pouvons tous deux protester qu'il est son aîné de plus d'un an et pour cela qu'il peut, en vertu de son droit d'aînesse, revendiquer sur lui le haut du pavé. L'idée est qu'on va accuser le chevalier à l'ardent pilon d'être comme une sorte de parodie ou de plagiat, même si le terme n'a pas beaucoup de réalité historique pour le temps du Don Quichotte, publié en 1612, mais d'après l'éditeur du texte, Walter Burr, il est d'un an l'aîné de Don Quichotte, ça voudrait dire qu'il est né en 1611, un an avant la traduction de 1612. Ou une autre date plus possible serait même un peu plus précoce encore, 1607 ou 1608, puisque l'un des personnages, dans le prologue de la pièce, fait allusion au fait qu'il y a 7 ans, que des pièces ont commencé à être représentées dans cette maison, c'est-à-dire dans le théâtre des Blackfriars, ce qui amènerait à 1607 ou 1608 comme date de la représentation. De toute façon, que ce soit 1607-8 ou 1611, ce qui est important est de considérer que la pièce de Beaumont ou Beaumont and Fletcher est antérieure à la traduction de publiée par Blount et écrite par Shelton, et que donc elle pose la question d'une circulation, d'une présence du Don Quichotte avant même qu'il soit accessible en langue anglaise. Bien sûr, on peut se garder d'une mise en rapport trop directe entre Don Quichotte d'un côté et puis le chevalier à l'ardent pilon. Les motifs ou les situations de la comédie sont assez distincts. Néanmoins, il est très clair que ceux ou celui qui a écrit « The Knight of the Burning Pestle » connaissait le Don Quichotte. On le voit tout à fait par différents traits. D'abord, cette sorte de contrepoint qui anime toute la pièce de Beaumont et Beaumont and Fletcher, c'est le fait qu'un commis d'épicerie, qui a pour nom Ralph, va se transformer en un grocer errant, un épicier errant, comme un knight errant, un chevalier errant, sur la scène des Blackfriars, pour plaire à son patron et à sa femme. La pièce est très passionnante, un peu, comme je le disais, pour les mêmes raisons que celle du Spanish Tragedy, le théâtre dans le théâtre. La pièce commence comme si la troupe des enfants qui jouent au théâtre des Blackfriars, allait représenter une comédie qui est une comédie classique de mœurs mettant en scène des marchands londoniens ou des citizens de la ville. Objet classique du répertoire, parodie des mœurs de cette classe sociale londonienne. Et au moment même de commencer, ils sont interrompus par deux spectateurs, mais qui sont en fait des personnages de la pièce, qui sont lassés de voir ces critiques des marchands londoniens, la pièce qui était supposée être représentée à partir de The London Merchant, et qui propose une alternative à cette représentation en disant que les hauts faits de leur commis, le Grother Herent, seraient une représentation infiniment plus divertissante et intéressante. Et toute la pièce est la constante tension entre celle que veulent représenter les acteurs, c'est-à-dire les enfants qui jouent sur la scène des Blackfriars, le London Merchant, et l'autre qui est donné à voir du fait des interruptions de l'épicier et de sa femme, et de la représentation sur la scène des aventures de Raff, l'épicier ou le commis d'épicerie errant. Il y a donc là, évidemment, un jeu d'écho qui est très clairement la mise en rapport de cet épicier errant avec un chevalier errant. Les deuxièmes éléments qui permettent de penser que l'auteur ou les auteurs connaissaient le Quichotte, c'est le fait que lorsque Raff entre en scène, à la troisième scène du premier acte, il entre en scène lisant à haute voix un livre qu'il est en train donc de lire pour lui-même, et ce livre est un des romans de chevalerie classiques du répertoire espagnol, traduit à l'anglais, c'est-à-dire le Palmerin d'Oliva. Et les deux parties avaient été traduites par Anthony Munday en 1588 puis 1597. Et dans la première réplique, il mentionne deux personnages, le prince de Portigo et Rosicler, qui figurent dans un autre des romans de chevalerie castillan, traduit à l'anglais, El Espejo de Príncipes y Caballeros, traduit comme le miroir des hauts faits des princes, The Mirror of Princely Deeds, par Margaret Tyler, et là aussi, les trois parties traduites en 1578, 85, 86. Et un peu plus tard, le même Raff, le Grocer Errant, fait allusion à un autre Palmerin, le Palmerin of England, qui avait été traduit par Munday et publié en 1596. Donc ces trois références, Palmerin d'Oliva, le Mirror of Princely Deeds et Palmerin of England, montrent quelque chose de tout à fait fondamental, c'est que Raff et Don Quichotte ont lu les mêmes livres, puisque les deux Palmerines, le Palmerin de Oliva et le Palmerin de Inglaterra, dans leur original castillan, sont évidemment présents dans la bibliothèque de Don Quichotte, lorsque le curé et le barbier, pour le sortir de ses fantaisies, viennent pour détruire les livres de chevalerie que Don Quichotte a accumulés et lus au fil des nuits. On a donc là la même lecture, la même présence des deux palmerines. Et d'ailleurs, on peut noter que le palmerin d'Inglaterra, ce Palmerin of England que Raff a lu et auquel il fait allusion, est le seul roman de chevalerie avec Amadis de Gaola que le curé et le barbier sauvent du bûcher bibliographique qu'ils ont organisé au pied de la, à côté de la bibliothèque de Don Quichotte et dans lesquelles il jette régulièrement tous les livres de chevalerie pour les brûler. Une autre scène fondamentale puisqu'elle peut avoir un écho, une mise en écho avec les autodafés de l'Inquisition qui elle aussi brûlait les livres. Donc on a un deuxième élément qui permet de penser que Beaumont et Fletcher ont lu le Quichotte avant même que soit accessible la traduction de Shelton. Et Burr lui-même reconnaît que la parallèle des deux destins, celui du chevalier au pilon flamboyant et celui de l'Hidalgo de la Mancha, lorsque dans sa dédicace il dit « Je ne doute point qu'il, Don Quichotte, et le chevalier à l'ardent pilon, se rencontrent dans leurs aventures, et j'espère qu'en rompant un gourdin, un bâton, ils se lieront d'amitié et peut-être s'uniront-ils pour voyager à travers le monde en quête de leurs aventures. C'est là un des premiers liens possibles entre Don Quichotte et des héros anglais, dans ce cas-là, Ralph de Brosser Errant, plus tard, évidemment, que, comme on le verra au cours du XVIIIe siècle, la mise en rapport en Angleterre entre certains héros shakespeariens et le Don Quichotte. Une des inspirations pour ce travail était une page de titre d'une revue espagnole publiée en 1916, qui avait pour titre Espagna, et qui représente, au moment de la commémoration du tricentenaire de la mort et de Cervantes et de Shakespeare, puisque le hasard a voulu qu'ils meurent l'un et l'autre en 1616, en 1916, sur cette page de titre de cet hebdomadaire espagnol, on voyait en conversation Don Quichotte et Hamlet. Et Don Quichotte s'adressait à Hamlet en disant « Regarde et admire combien il célèbre notre anniversaire ». Il y aurait donc là toute une série de parallèles à voir, le moment où Don Quichotte va se trouver associé à des figures littéraires anglaises, et sans doute un des premiers textes, sinon le premier, est cette préface ou ce prologue de l'éditeur du Chevalier à l'ardent pilon, dans lequel Ralph et Don Quichotte sont pensés comme parents, frères, qui devraient se rencontrer et s'unir pour voyager en quête d'aventure dans le monde. Donc il est bien clair que Beaumont ou Beaumont and Fletcher connaissaient le Quichotte, sa parodie des romans de chevaleresque et le traitement de son héros. Alors, comment penser que ce Quichotte était connu avant même la traduction de Shelton et connu au point de pouvoir inspirer à la fois une figure de théâtre, celle de Ralph dans The Knight of the Burning Pestle, et en même temps des détails textuels comme ses lectures qui étaient les mêmes pour Don Quichotte et pour Ralph, à commencer par les deux palmérines. On peut d'abord penser à l'hypothèse selon laquelle l'espagnol est une langue connue et très connue dans l'Europe de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et il est tout à fait probable que des lecteurs anglais, qui deviennent ensuite des spectateurs de théâtre, ont lu l'une ou l'autre des éditions en castillan de La Historia de Cervantes. Avant 1608, prenons la date la plus précoce possible pour le chevalier à l'ardent pilon. On a 5 éditions qui sont disponibles depuis la première année, puisqu'en 1605 ont été publiées 2 éditions à Madrid, 2 éditions à Lisbonne et 1 édition à Valence. Et se sont ajoutés à cela, en 1607, une édition en espagnol à Bruxelles, et en 1608, la troisième édition de Madrid, du même atelier, Juan de la Cuesta, et du même libraire-éditeur, Francisco de Robles. Et si l'on pense à la traduction de Shelton, 1612, on peut ajouter à ces 7 éditions, 2 autres éditions, l'une publiée à Milan en 1610, et une seconde édition publiée dans les Pays-Bas espagnols à Bruxelles en 1611. On a donc 9 éditions disponibles en espagnol avant la traduction de Shelton, et ces éditions ont évidemment circulé non seulement dans la péninsule ibérique, mais dans toute l'Europe et bien sûr aussi aux Indes, c'est-à-dire dans les colonies espagnoles d'Amérique. Il y a un détail textuel qu'on mentionne souvent, qui est dans la seconde partie de Don Quichotte, publiée en 1615. Les premiers chapitres sont consacrés à discuter le succès, les interprétations de la première partie, ce qui est une autre forme de l'acuité de Cervantes, de la même manière que je mentionnais les pièces dans lesquelles la représentation de théâtre est un élément de la représentation, donc du théâtre dans le théâtre. On aurait là, en quelque sorte, la historia dans la historia, l'histoire dans l'histoire, puisque Sanson Carrasco, le bachelier qui revient de Salamanque, rapporte à Don Quichotte des nouvelles sur la circulation du livre qui a rendu public ses aventures. Et à un moment du chapitre 3, dans la seconde partie, publiée en 1615, Sanson Carrasco déclare « On a déjà imprimé plus de 12 000 exemplaires de cette histoire », évoquant donc les éditions de la première partie, ce qui est devenu la première partie, dès lors que Cervantes en a ajouté une seconde. Et si on se souvient qu'une édition fin XVIe, début du XVIIe siècle, a comme tirage moyen 1500 exemplaires, Sanson Carrasco indique ainsi, indirectement, qu'il y aurait 13 500 exemplaires du Quichotte qui ont circulé dans les dans les éditions en castillan antérieures à 1615, dans les 9 éditions que j'ai mentionné. Donc il est plus que probable que des lecteurs anglais, peut-être de nombreux lecteurs anglais, ont lu le Don Quichotte dans une ou l'autre de ces éditions en espagnol publiées dans l'un ou l'autre des territoires de la monarchie catholique. Castille, Aragon, Portugal et les Pays-Bas espagnols. Et ce qui peut soutenir cette idée est ce que je mentionnais à propos de Edward Blount, c'est-à-dire la multiplication dans ces mêmes années en Angleterre d'ouvrages qui sont destinés à permettre l'apprentissage du castillan, soit des grammaires, soit des dictionnaires. Dans un recensement que j'ai établi, mais qui est tout à fait partiel, sans doute. On peut rencontrer 1590 la traduction d'un ouvrage espagnol par un gradué d'Oxford, John Turrius, et publié en anglais avec le titre de The Spanish Grammar, la grammaire espagnole, with certain rules teaching both the Spanish and the French tongues, avec certaines règles qui enseignent à la fois la langue française et la langue espagnole. On rencontre l'année suivante un Spanish Schoolmaster d'un professeur d'espagnol à Londres. En 1591 aussi, une Bibliotheca Hispana qui contient un dictionnaire et une grammaire et qui sont dues à Richard Percival. En 1599, A Spanish Grammar, un Dictionary in Spanish and English publié par Sir John Mincheu qui était professeur de langue à Londres, qui révise l'ouvrage de Perceval, ou encore en 1605, une clé de la langue espagnole, The Key of the Spanish Tongue, de Lewis Owen. Et donc on voit un flux régulier, 1590-1605, de grammaire et de dictionnaire, et qui viennent de deux milieux différents. L'un, qui sont des gradués des universités, des lettrés qui ont une licence ou un doctorat, et l'autre, c'est professeurs de langue qui sont installés à Londres et qui peuvent à la fois enseigner l'espagnol à ceux qui en ont besoin pour des raisons professionnelles, soit administratives, diplomatiques, commerciales, ou pour ceux qui veulent pouvoir jouir de cette abondante littérature qui vient de Castille et qui innove fondamentalement par rapport au genre établi dans le contexte européen et dont certains lecteurs veulent prendre connaissance dans les textes originaux. On voit donc qu'il y a là une première raison pour comprendre comment le Quichotte pouvait être si fortement présent avant même la traduction de Shelton et inspirer à la fois des personnages ou des histoires. Une seconde raison, qui peut elle aussi se lier à un fait plus général, est le fait que la traduction de Shelton, publiée en 1612, avait peut-être ou sans doute circulé auparavant en une forme manuscrite. La traduction a été enregistrée par la Stationer's Company, la communauté des libraires et imprimeurs de Londres, le 19 janvier 1611, et en 1612, elle est publiée, mais dans le texte publié, Shelton indique qu'il a traduit le Don Quichotte très rapidement, 40 jours, et qu'il l'a traduit 5 ou 6 ans auparavant, c'est-à-dire en 1607. Et on sait que beaucoup d'ouvrages ensuite imprimés ont pu connaître une première circulation sous une forme manuscrite à l'intérieur d'un public plus restreint de ceux qui ont accès à l'une ou l'autre des copies du manuscrit d'auteur. La même hypothèse a d'ailleurs été formulée pour le Quichotte en 1604. Une possible première circulation d'une ou de plusieurs copies manuscrites avant l'impression. Dans ce cas-là, on voit que la traduction de Shelton pourrait-elle être aussi considérée comme un support pour cette connaissance du Quichotte avant 1612 et à cette date de 1607-1608 qui serait sans doute la première date possible pour la pièce de Beaumont. The Night of the Burning Pestle. Et on comprendrait du coup pourquoi on rencontre si fréquemment dans le théâtre anglais très tôt des allusions dans les années 1607, 1608 ou 1609, des allusions à Don Quichotte. Et en particulier, ce qui devient un lieu commun, ce qui devient un topos, c'est-à-dire l'allusion au combat contre les moulins à vent. Dans une pièce de George Wilkins, The Miseries of Enforced Marriage, qui a été publiée en 1607, on a cette ligne « Maintenant je suis armé pour lutter contre un moulin à vent et renverser les murs d'un empereur. »« I am armed to fight with a windmill. » Pour la même année 1607, dans une pièce de Thomas Middleton, même allusion. « I could fight a windmill now. » »« Je pourrais combattre un moulin à vent maintenant. » Et en 1609, dans une pièce qui a pour titre Epicoene de Ben Jonson, un des personnages donne des conseils à Sir Dauphin qui voudrait apprendre à connaître les femmes. Et alors, le personnage s'appelle True Wit, la vraie subtilité, lui déclare « Vous devez cesser de vivre dans votre chambre avec Amadis de Gaulle » ou Don Quichotte, on est en 1609, comme vous en avez l'habitude, et vous rendre là où le thème est fréquent, à la cour, au tournoi, aux cérémonies, aux fêtes, dans les théâtres et parfois dans les églises. On voit donc que dès 1607-1609, dans ces pièces, soit le motif si puissant des moulins à vent et du combat contre les moulins à vent est déjà présent, soit même l'idée d'une lecture passionnée et emprisonnante de Don Quichotte est mise en place par ce premier texte de Ben Jonson. Alors, on voit que les folies de Don Quichotte ont donc été connues très tôt en Angleterre, mais la question qui se pose dès lors, c'est pourquoi la pièce représentée en 1613, deux fois à Whitehall, la première fois pour le mariage d'Élisabeth et de Frédéric, la deuxième fois pour honorer la visite du duc de Savoie, pourquoi est-ce qu'elle a choisi Cardenio comme titre, et donc on peut le supposer, comme personnage principal, et non pas Don Quichotte? Pourquoi annoncer au titre, par cette mention de Cardenio, que la pièce porte fondamentalement sur les amours contrariés et finalement satisfaite du jeune noble andalou, et non pas sur les aventures comiques, burlesques de l'Hidalgo et de son écuyer? Alors la réponse, comme vous pouvez le supposer, n'est pas très aisée, puisque la pièce n'a jamais été imprimée, malgré la volonté de le faire de Mosley au milieu du siècle, 17e, et qu'il n'en subsiste aucun manuscrit. D'ailleurs, il n'y a pas lieu de s'étonner particulièrement devant cette idée d'une œuvre disparue, dans la mesure où cette situation est la plus fréquente pour le théâtre élisabétain et des premiers Stuarts. Entre 1565, qui est la date de la première pièce considérée comme une tragédie anglaise, « The Tragedy of Godebuck » de Thomas Norton et Thomas Sackville, jusqu'en 1642, c'est-à-dire la période où, avec la Révolution, se ferment les théâtres, et où il n'y a plus pendant plus de 10 ans aucune représentation autorisée, durant cette période, on peut estimer soit aux 4/5, soit aux 2/3, les pièces qui ont été représentées, dont on connaît les titres attestés dans tel ou tel document, et qui n'ont pas été imprimées. Donc le Cardenio perdu devient un fait très frappant, dans la mesure où, s'il s'agit d'une pièce de Shakespeare, l'obsession du 19e, du 20e et du 21e siècle pour récupérer la totalité du corpus shakespearien a pu conduire à cette obsession, cette attention. Mais en même temps, du point de vue de la rapport entre représentation de théâtre et publication imprimée, il y a là une situation qui est tout à fait normale et qui aurait pu être infiniment plus normale encore pour Shakespeare si l'on pense que dans le folio de 1623, organisé par Heming et Crandell, comme je le disais, avec 36 ou 37 pièces, la moitié n'avait jamais été publié dans le format in quarto. C'est-à-dire que sans cette initiative de Crandell et Hemings, la moitié des pièces qui pour nous sont des références classiques, canoniques du théâtre shakespearien, auraient pu connaître le même sort que le Cardenio. Alors, une fois posé cela, reste la question que j'évoquais, c'est-à-dire quelles hypothèses proposer pour comprendre comment la pièce de 1613, appuyée sur le Quichotte, soit celui de Shelton, soit celui de Cervantes, a choisi Cardenio et pas Don Quichotte pour son titre et on peut supposer son intrigue principale. Une première raison que l'on peut évoquer, c'est une raison qui a à voir avec un reproche fait à Cervantes, dans la deuxième partie de 1615, rappelé par Samson Carrasco, c'est-à-dire d'avoir intercalé dans son Historia du Chevalier Errant une nouvelle. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de Cardenio, il s'agit d'une autre nouvelle. Je cite ici Samson Carrasco. L'un des défauts que l'on reproche à cette histoire, dit le bachelier, c'est que son auteur y a inséré une nouvelle intitulée « Le curieux impertinent ». Non pas qu'elle soit mauvaise ou mal écrite, mais parce qu'elle n'est pas à sa place et n'a rien à voir avec l'histoire du Seigneur Don Quichotte. Vous vous rappelez peut-être, il s'agit ici d'une allusion directe au chapitre 33 à 35 dans les éditions modernes de la première partie du Quichotte, dans lesquelles le curé lit à tous les autres personnages, sauf Don Quichotte, une nouvelle, la novella del curioso impertinente, et qui est tout à fait indépendante de l'histoire de Don Quichotte et de Sancho. C'est un manuscrit qu'ils ont trouvé dans l'auberge de Juan Palomeque, et pour passer agréablement la soirée, le curé s'est proposé à faire une lecture à haute voix de cette novella del curioso impertinente, qui formait 3 chapitres. Et on peut d'ailleurs penser qu'au tout début de sa rédaction, ces 3 chapitres étaient totalement autonomes et sans présence dans aucun des 3 des personnages du Don Quichotte. Et sans doute pour produire un effet esthétique plus subtil et plus complexe, Cervantes, à un moment donné, a déplacé un épisode qui était l'épisode où Don Quichotte endormi imagine le géant usurpateur du royaume de la princesse Micomicona comme son adversaire et commence à combattre contre lui, et en fait il combat contre les outres de vin de l'aubergiste dans une scène qui là aussi est une scène des raisons. Et cette scène-là du Don Quichotte endormi combattant des outres prises pour un géant qui devait sans doute succéder à la lecture des 3 chapitres du Curioso Impertinente, Cervantes l'a fait revenir au début du 3e chapitre consacré à la nouvelle du Curioso Impertinente, sans nécessairement d'ailleurs changer ou penser à changer les titres des chapitres, ce qui fait que le chapitre qui suit porte dans le titre l'annonce de ce combat qui a déjà eu lieu puisqu'il est présent dans le chapitre précédent. C'est un des exemples, comme l'a montré Francisco Rico, où on peut voir le processus d'écriture de Don Quichotte à travers des traces, et en l'occurrence des bévues ou des confusions qu'il a laissées dans la forme imprimée, puisque le titre du chapitre 36 annonce le combat contre les outres de vin qui, en fait, a été replacé au début du chapitre 35. Mais à part cet épisode, l'histoire du Curioso Impertinente se place dans un temps, dans un lieu tout autre que celui des aventures de Don Quichotte et de Sancho, et donc crée effectivement une nouvelle au sens précis du XVIe ou du XVIIe siècle, d'une histoire en prose brève, introduite à l'intérieur du Quichotte, ce qui lui a été reproché par certains des critiques outrés par ce mélange des genres, novella, historia. En même temps, c'est ce qui a permis des adaptations précoces de passages du Don Quichotte, puisque la première adaptation théâtrale fondée sur le Quichotte est justement une comédie qui utilise l'histoire du Curioso Impertinente, c'est-à-dire l'histoire d'Anselmo, le mari qui est si confiant ou si curieux que, par rapport à la vertu de sa femme, qui lance un défi à son meilleur ami, Lothario, prétendant qu'il sera impossible à Lothario de la séduire, mais pris au jeu de la séduction, finalement, les choses prennent un tour tout à fait différent et se terminent tragiquement. Donc cette histoire-là, du Curioso Impertinente, totalement détachée du Quichotte, fut l'objet de la première adaptation théâtrale que l'on puisse rencontrer, une pièce de 1611, que l'on attribue soit à Thomas Middleton, soit à Cyril Tourneur, et qui a pour titre « The Second Maiden Tragedy », et dont l'intrigue secondaire, entremêlée avec une intrigue principale qui n'a rien à voir avec Don Quichotte, est l'histoire du Curioso Impertinente, en l'occurrence de Anselmo, qui a gardé le nom qu'il a chez Cervantes, ce curieux imprudent, et d'autre part de Votarius, qui est le nom donné à Lothario, qui accepte le pari, se prend au jeu de la séduction. Donc on voit qu'ici, la structure même du Quichotte, la présence de cette nouvelle inscrite à l'intérieur de la narration de l'histoire, était une possibilité relativement aisée d'appropriation, puisqu'il suffisait de transformer le récit en prose narrative du Quichotte, c'est-à-dire du Curioso Impertinente, en une intrigue de théâtre. La difficulté n'était pas très grande, mais elle pouvait suggérer des appropriations de Don Quichotte reposant sur le même principe, c'est-à-dire reposant sur l'appropriation d'histoire dans l'histoire. On le verra plus tardivement, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque un autre récit lié, mais lié de manière assez floue ou légère avec l'histoire principale, c'est-à-dire l'histoire du captif échappé des bagnes d'Alger, va être l'objet d'une narration en trois chapitres, là aussi, faite par ce captif échappé devant les autres personnages du Quichotte. Et là encore, l'histoire du captif, de Zoraïda, la belle musulmane déjà catholique mais pas encore baptisée, qui l'a aidé à s'enfuir, va former une histoire qui va être un matériel très immédiatement appropriable pour le théâtre. L'idée pouvait être aussi de penser que Cardenio, à sa manière, était une nouvelle à l'intérieur de la historia, de l'histoire de Don Quichotte et de Sancho. Mais évidemment, là, la difficulté était beaucoup plus grande dans la mesure où que les amours ou désamours de Cardenio ne sont pas proposé par Cervantes dans une série de chapitres qui se suivent comme une nouvelle enchâssée à l'intérieur de l'histoire. C'est une multiple narration qui construit sur les chapitres de 23 jusqu'à 42 l'histoire de Cardenio. Donc la difficulté était plus grande, le défi était aussi peut-être plus intéressant, et c'est ce qu'on pourrait essayer de suivre, de voir comment la matière proposée par Cervantes, en particulier à travers la traduction de Shelton, qui d'ailleurs est une traduction extrêmement précise et respectueuse, pouvait être l'objet d'appropriation, mais en même temps lancer des interrogations ou des défis pour cette nouvelle forme d'écriture qui faisait basculer la nouvelle de Cardenio en une œuvre théâtrale. Mais pour conclure aujourd'hui, avant d'entrer dans cette réflexion sur comment l'histoire ou la nouvelle de Cardenio pouvait être appropriée, je crois qu'il y avait un autre élément qui a pu jouer sur Cardenio et qui peut-être nous donne une indication sur une question qui restera à jamais sans solution, c'est-à-dire de savoir si Don Quichotte apparaissait sur la scène de Whitehall dans la pièce de 1613. Elle a pour titre Cardenio. Est-ce que cela implique que Don Quichotte, Sancho soient gommés et que toute l'intrigue soit une histoire d'amour et désamour, ou est-ce que néanmoins, malgré le titre, malgré l'intrigue principale, Don Quichotte, comme on le verra dans d'autres adaptations théâtrales que celles-ci nous pouvons lire, aussi bien en Espagne qu'en France, était néanmoins présent comme un contrepoint à l'intrigue principale qui était celle des histoires d'amour. Le point qui pourrait suggérer cette présence de Don Quichotte aux côtés de Cardenio dans le Cardenio de 1613, c'est un trait qui, me semble, doit être souligné, c'est-à-dire le fait de la parenté qui existe entre Cardenio et Don Quichotte dans le texte même de Cervantes. Lorsque l'on rencontre Cardenio, lorsque Don Quichotte rencontre Cardenio, il le rencontre d'abord sans le voir à travers le récit que font de lui les chevriers qu'il rencontre dans la Sierra Morena, et l'un d'eux décrit ainsi Cardenio, alors je donne la traduction française, quand son accès de folie, l'accidente de locura dans le texte de Cervantes, le prend, même si les bergers lui offrent de bonne grâce ce qu'ils ont, il ne l'accepte pas et s'en empare à coups de poing. Et quand il est dans son bon sens, il le demande pour l'amour de Dieu avec douceur et courtoisie. Quando está en su sesso. Très fidèlement, Shelton a traduit The Fit of Madness bon sens, Right Sense. C'est-à-dire que Cardenio est divisé, il oscille entre l'urbanité et la violence, entre l'entendement et la déraison, ce qui est évidemment aussi une des caractéristiques fondamentales de Don Quichotte lui-même. Par ailleurs, un autre point de parenté est le fait que tous les deux prennent la réalité pour leur rêve ou pour leur cauchemar. Le chevrier continue en disant que dans ses accès de folie, ces accidentes de locura, Cardenio s'adresse à des personnages invisibles en les traitant ainsi. « Ah, perfide Fernando, c'est ici, oui, c'est ici que tu me paieras le tort que tu m'as fait. Ces mains t'arracheront le cœur, abri et repère de toutes les méchancetés réunies, et principalement de la trahison et du mensonge. » C'est-à-dire que, prenant un chevrier pour ce Fernando détesté, Cardenio substitue à la réalité empirique la réalité qui est celle de ses songes, et en l'occurrence de ses cauchemars. Dans un sens, tous les deux ne sont plus ce qu'ils devraient être. Et d'ailleurs, Don Quichotte, désignant Cardenio à lui-même, lorsque finalement il le rencontre, emploie une expression qu'il pourrait fort bien s'appliquer à lui-même, puisqu'il le désigne comme aussi étranger à vous-même que le montre votre habit et votre personne. Tan ajeno de vos mismo cual lo muestra vuestro traje y persona. Et Shelton a traduit par so alienated from yourself. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Ils sont hors d'eux-mêmes, dans un sens, l'un et l'autre, à la fois par cette projection sur le monde empirique réel de leurs songes, pour le pire ou le meilleur, et de l'autre part, parce qu'ils sont comme déchirés en eux-mêmes entre cesso et locura, entre l'entendement et la raison, entre l'urbanité et la violence. Et cette parenté, ce double d'eux-mêmes, qui est Cardenio pour Don Quichotte ou Don Quichotte pour Cardenio, vient évidemment d'une même matrice, c'est-à-dire la lecture des romans de chevalerie. À la demande de Don Quichotte, qu'il a rencontré, Cardenio entreprend de raconter son histoire, pourquoi il est dans la Sierra Morena, pourquoi il a abandonné tous ses biens et pourquoi il est incarnant cette figure de l'homme sauvage qui va en haillons presque nu, sautant de rocher en rocher, se contentant de la nourriture qu'on lui donne ou la demandant avec la violence qu'on a signalé tout à l'heure. Et alors, Cardenio commence ce récit qui est un récit de descente dans sa mémoire, de remémoration et d'une remémoration qui est laborieuse et douloureuse. Je cite « Si vous désirez, messieurs, que je vous dise en quelques mots l'immensité de mes malheurs, il vous faut promettre de n'interrompre par aucune question, ni de quelque autre manière, le fil de ma triste histoire. Car à l'instant même où vous le ferez, ce que je vous aurai raconté en restera là. Si je vous avertis de la sorte, c'est que je voudrais abréger le récit de mes infortunes, car de les ramener à ma mémoire ne me sert qu'en ajouter de nouvelles. Traerlas à la memoria. » C'est-à-dire cet effort d'anamnèse est un effort qui suppose la peine, la douleur, et finalement, il doit être bref, sinon la douleur insupportable est rappelée aux deux sens du mot. On s'en souvient et elle revient. Malheureusement, dans ce récit qu'a commencé Cardenio, à un moment donné, il évoque que son amoureuse, Lucinda, lui avait demandé un livre de chevalerie qu'elle aimait fort, Amadis de Gaulle. Et en entendant cela, évidemment, Don Quichotte ne peut pas s'empêcher d'interrompre Cardenio, de louer Lucinda pour son esprit, d'inviter d'ailleurs Cardenio à visiter avec lui sa propre bibliothèque, celle de Don Quichotte, où dit-il, il a plus de 300 livres de chevalerie. L'interruption a détourné Cardenio du récit de son infortune, l'a ramené au souvenir de la lecture d'Amadis, mais son souvenir n'est pas très sûr, puisqu'il évoque une reine Madassima, alors qu'il n'y a aucune Madassima dans les romans de l'Amadis de Gaulle qui soit souveraine, mais pour autant il est tout à fait sûr que cette reine Madassima a été la concubine de son écuyer et médecin, enfin de l'écuyer et médecin d'Amadis qui s'appelle Elisabat. Et Don Quichotte est absolument outré de penser qu'on pouvait ainsi ternir l'honneur de cette dame. Il traite Cardenio de menteur, de coquin. Cardenio répond violemment, insulte Don Quichotte, le rosse, puis s'en retourne dans la Sierra Morena, laissant la narration inachevée. Je crois que cette rixe, ou ce différent à propos de la vertu de la reine Madassima, traduit à la fois que pour Cervantes, il y a là comme une matrice commune des deux personnages, c'est-à-dire des lecteurs avides des romans de chevalerie, et que d'autre part, malgré ou à cause de cette violence échangée de l'un à l'autre, ce qui est en jeu fondamentalement, c'est leur homologie. Et je terminerai avec cela parce qu'il me semble que Don Quichotte lui-même, lors de la rencontre, reconnaît dans l'immédiateté des premiers moments cette réalité de Cardenio comme son double. Je cite ce passage. À peine arrivés, le jeune homme les salua, donc Don Quichotte, Sancho et les chevriers, d'une voix discordante et rauque, mais fort poliment. Don Quichotte lui rendit son salut avec autant de civilité, et descendant de Rocinante, il alla, d'un air avenant et de bonne grâce, lui donner l'accolade, et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. Le fui a abrazar y le tuvo un buen espacio estrechamente entre sus brazos, como si de luengos tiempos le hubiera conocido. C'est-à-dire finalement qu'il y a là la reconnaissance dans l'immédiateté du geste d'une sorte de fraternité de lecture ou de fraternité de déraison. Et le parallèle va être renforcé par la manière dont Cervantes puis Shelton vont les désigner, Shelton nommant Don Quichotte « the Knight of the Rock Don Quichotte « the Knight of the Ill-Favored Face », le chevalier à la triste figure, et nommant Cardenio « the Knight of the Rock ». Il y a d'emblée cette reconnaissance par Don Quichotte de leur très forte commune identité. Et on peut supposer que des dramaturges pouvaient eux aussi reconnaître cette série d'homologies que j'ai essayé de mettre en place, Folie et Déraison, la matrice de la lecture des romans de chevalerie, l'immédiateté de la reconnaissance, et qu'ils pouvaient exploiter ces similitudes, ressemblances, identités, pour en tirer des effets très puissants sur le théâtre, c'est-à-dire des effets de contrepoint, ce qui est une des clés fondamentales du théâtre du XVIIe siècle. La même histoire sur deux registres sociaux, pensons à Amphitryon et Sosie, ou bien des jeux permanents de contrepoint entre du tragique et du comique, mais qui supposent qu'il y ait une identité commune qui en soit le fondement. Alors pourquoi ne pas penser que ce Cardenio de 1613 convoquait aussi Don Quichotte pour exploiter sur la scène ce que Cervantes d'abord, Shelton ensuite, avaient inscrit sur les pages qu'ils avaient pour l'un composées et pour l'autre traduites. Donc, merci. Et non pas la semaine prochaine, puisque c'est le jeudi et férié, mais le jeudi suivant, c'est-à-dire, si j'ai bien noté, le 8 novembre.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.